sur d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous et un salut tout particulier à Miguel Castillo, 80 ans, titulaire d'une bourse Erasmus. Cet Espagnol est désormais le plus vieux bénéficiaire de ce programme d'échange européen. Miguel Castillo a obtenu un semestre à la faculté d'histoire de l'université de Vérone en Italie. François Musso nous en dresse le portrait.
C'est l'histoire d'un retraité qui se dit banal. Banalement, justement, lorsqu'il met fin à sa carrière de notaire à l'âge de 70 ans, Miguel Castillo se repose. « J'ai passé 4 ans à faire la sieste », dit-il aujourd'hui. Et puis, il en a eu assez de cette oisiveté et de cet ennui. Alors cet homme marié, ce Valencien aux allures méditerranéennes, a repris sa vieille passion, l'histoire. Une matière qu'il avait déjà enseignée quelques années plus tôt à la faculté de Rome et de Bologne. Il est en troisième année de cette matière. L'histoire, Miguel aime surtout la contemporaine, notre monde d'aujourd'hui. Et surtout, il veut se sentir vivant. Moi, je veux continuer à donner à la société et aussi à recevoir d'elle jusqu'au bout, dit-il. C'est pourquoi il s'est porté candidat pour une bourse Erasmus, le grand symbole de la jeunesse européenne. Bien sûr, c'est un peu curieux de voir cet octogénaire avec des compagnons de classe qui ont 6 décennies de moins que lui. Mais cela lui est égal. Il étudie studieusement. Il s'amuse avec eux pendant les pauses, il va à toutes leurs manifestations, sort avec eux en discothèque, même s'il tâche de ne pas rentrer trop tard à la maison. Désormais, une autre aventure commence donc, à Vérone, en Italie, Vérone qu'il a choisi car dans les années 70, il y avait vu chanter la cantatrice Maria Callas. Pour ce séjour, tout est prévu, un appartement a été loué pour lui et sa femme, une infirmière retraitée. Pour se moquer gentiment de lui, les compagnons de classe de Miguel lui demandent s'il peut leur expliquer comment on rédige un testament. Miguel Castillo sourit simplement, il ne se vexe pas, il se contente de répondre « J'ai tout l'avenir devant moi ».
J'ai lu hier soir une phrase de Reagan qui disait « Mi hanno detto que la politique è storicamente la seconda attività dell'uomo. Beh, ho pensato, è molto, molto vicina alla prima attività. Quindi bisogna fare politica con decoro, con decoro.
L'Italie, justement, on y vient. Les sondages y sont interdits depuis plus de 10 jours, mais il y a peu encore, la campagne des législatives était marquée par la poussée des partis eurosceptiques et les résultats incertains du scrutin du 4 mars représentaient une nouvelle menace pour la cohésion de l'Union européenne. Et c'est donc une personnalité controversée, inéligible, qu'on disait usée, fatiguée de ses affaires judiciaires, qui ramène de la sagesse dans le débat, selon ses plus fervents partisans. Silvio Berlusconi, 81 ans, celui qu'on surnomme le Phénix, fait un comeback fracassant. Et c'est le reportage de Cécile Debarge dans le Nord.
C'est une scène que l'on a déjà vue des centaines de fois. Impeccable dans son costume gris, sourire plaqué sur le visage, Silvio Berlusconi se sent comme chez lui sur les plateaux de télévision.
Président Berlusconi, la dernière fois que vous êtes venu à Otto e Mezzo, c'était il y a 5 ans, lors de la campagne électorale de 2013.
Et comme en 2013, c'est lui qui se retrouve à la tête de la campagne électorale menée par son parti Forza Italia. 4 fois président du Conseil, rompu au discours médiatique, l'interview commence par un échange étonnant avec la présentatrice.
Vous venez de me dire que vous êtes devenu grand-père pour la 7e fois d'un petit Ricardo.
Avec un grand sourire, Silvio Berlusconi s'étale en détail sur sa vie privée et sa fille Barbara. Énième preuve, s'il en fallait une autre, que l'ancien président du Conseil n'est pas un homme politique comme les autres. Claudio Bergamin est l'un de ses plus fervents soutiens.
Le personnage de Silvio Berlusconi est bizarre à comprendre à l'étranger. Bizarre aussi d'expliquer comment, à 81 ans, il peut être encore aussi important dans le paysage politique italien.
Le jeune politique engagé au sein de Forza Italia résume parfaitement la situation et livre ses éléments de réponse sur le succès incontesté du leader du parti.
Tout le monde me dit avoir été très déçu par le gouvernement de Matteo Renzi, ne pas faire confiance au mouvement 5 étoiles et ne pas vouloir voter Salvini. Donc, au final, Silvio Berlusconi est moins pire que les autres.
Moins pire pour les Italiens, moins pire pour les Européens, aussi défend Fabio Maggio, représentant de Forza Italia à Pederoba en Vénétie, et lui aussi soutien de l'ancien président du Conseil.
Au final, Berlusconi est une garantie pour l'Union européenne. Et effectivement, on n'est pas les seuls à l'avancer. Même Angela Merkel l'a dit. Ce n'est pas une opinion, c'est un fait, et Berlusconi garantit un système qui permet la stabilité économique.
Si les propos sont un peu exagérés, il faut garder à l'esprit que la semaine dernière, Manfred Weber, chef de file allemand du Parti populaire européen, s'est rendu à Rome pour rendre visite à Silvio Berlusconi. Beaucoup considèrent aujourd'hui qu'il est le seul à pouvoir faire barrage à la Ligue du Nord et au mouvement 5 étoiles. Fabio Maggio.
Certes, il n'est pas candidat, mais il est le seul leader politique à s'imposer dans cette élection avec un discours modéré.
Il reste pourtant un léger détail. Condamné pour fraude fiscale, Silvio Berlusconi est inéligible jusqu'en 2019. Une condamnation souvent décrite par ses soutiens comme un acharnement judiciaire.
Ces 15 dernières années, ça a été une vraie guerre entre Berlusconi et le pouvoir judiciaire. Et cette bataille, c'était en fait une crise constitutionnelle.
Si Fabio Maggio dénonce le manque d'indépendance de la justice italienne, Giulia Sarti, députée du mouvement 5 étoiles et membre de la commission parlementaire anti-mafia, s'indigne de l'impunité d'une partie de la classe politique italienne.
Tanti politici.
De nombreux hommes politiques commettent des délits et la magistrature doit pouvoir les juger, même s'il y a acquittement au bout. Mais dans la plupart des cas, il y a des condamnations.
Et l'ancien président du Conseil fait partie de ces condamnés, rappelle-t-elle en pointant son très lourd passé judiciaire.
Silvio Berlusconi n'a pas été jugé pour des raisons politiques, mais pour des raisons très sérieuses, des délits très graves. Il a été condamné pour fraude fiscale et ce n'est que l'une des 19 condamnations. Et encore, la plupart des délits ont fini par être prescrits.
Dans tous les cas, si son parti arrivait en tête des élections, Silvio Berlusconi ne pourrait pas être élu à la présidence du Conseil. Une inéligibilité que le principal intéressé a balayé d'un revers de main dès les premières phrases de son meeting milanais le week-end dernier au Teatro Manzoni.
Je n'ai aucune ambition politique. Je peux très bien avoir la vie que je veux et vous pouvez tous imaginer. Et pourtant, mais voilà, je suis là. Et fort heureusement, je suis jeune, donc je peux être avec vous.
Silvio Berlusconi peut être avec les Italiens. Voilà le message qu'il répète à envie aux électeurs. Et nul doute qu'il saura peser de tout son poids dans la composition d'un gouvernement si les résultats de l'élection du 4 mars confirmaient les sondages. Il place en tête des votes la coalition de droite menée par Forza Italia. We now resume our regularly
scheduled program. Autre vote, hein, dimanche prochain, une votation en Suisse inédite en Europe, le 4 mars donc. Le peuple doit décider s'il souhaite supprimer la redevance audiovisuelle. En cas de oui, la société suisse de radiodiffusion serait privée de financement. Depuis des semaines, la campagne est virulente entre les partisans d'un paysage audiovisuel libéralisé et ceux qui entendent défendre un service public neutre et indépendant. Et c'est le reportage de Katia Michel.
Pourquoi payer pour une radio que l'on écoute rarement ou une télé que l'on regarde de moins en moins? La question émerge un soir autour d'un verre au fond d'un bistrot de Zurich. Trois jeunes, issus du milieu de la finance, s'interrogent. Ne devrait-on pas supprimer la redevance audiovisuelle? Une taxe d'un autre âge. 451 francs par an, soit 391 euros. L'idée séduit les citoyens puisque les trois jeunes sont parvenus, sans mal, à récolter les 100 000 signatures nécessaires pour obtenir un référendum, comme le prévoit la loi suisse. Dès lors, les partis politiques prennent position, et le sujet donne lieu à un débat fleuve au sein du Parlement, entre Isabelle Chevalet, députée verte libérale qui représente la gauche, qui entend défendre la SSR, la société suisse de radiodiffusion, et la droite dure, avec le député Luca Reimann, de l'UDC, qui appelle à la fin d'un modèle dépassé.
Nous avons aujourd'hui une multitude de journaux, de télévisions, de médias en ligne, beaucoup plus que toutes les générations avant nous. Et dans ce contexte médiatique nouveau, il est totalement superflu pour l'État de continuer à jouer un rôle.
Le service public n'est pas un simple slogan. Il implique une information objective, une diversité culturelle et sportive dans un pays qui a 4 langues nationales pour 8 millions d'habitants.
Il y a beaucoup de citoyens qui n'ont pas de télévision ni de radio et qui sont quand même obligés de payer la redevance. Il faut leur redonner la liberté. Il existe un droit à choisir en toute indépendance ce que l'on veut consommer.
Limiter les moyens de la SSR, c'est une atteinte aux minorités de ce pays. C'est une diminution de qualité, c'est une mise en danger du cinéma suisse, de la diversité culturelle et sportive. C'est une atteinte à la cohésion nationale et sociale de notre pays.
La rue aussi s'enflamme. Depuis des semaines, les défenseurs du service public multiplient les appels à la mobilisation. Et la Suisse vit au rythme des manifestations.
Nous sommes là pour dire non à la suppression de la redevance, à la suppression des médias audiovisuels.
Cette histoire de service public et de privatisation, ça me gonfle un peu. Et je pense que pour une fois qu'on nous demande quel type de société on veut, et puis bon, l'histoire de payer que ce qu'on utilise, c'est juste un gag, en fait. On vit en communauté, on vit dans un pays. Il est assez normal qu'on partage certains frais, quoi. Ça me paraît normal.
Ça détruit énormément d'émissions de qualité qui coûtent cher à la production et qui ne pourraient pas être produites, surtout en Romandie ou dans les minorités linguistiques, par un service audiovisuel privé. On a besoin aujourd'hui de la RTS, et c'est pour ça qu'on se bat.
La redevance audiovisuelle représente 75% du budget de la radio-télévision publique. Avec un budget amputé des trois quarts, la SSR ne pourrait plus fonctionner. Mais alors de Netflix, du pay-per-view. Le libéral radical Frédéric Jolien estime qu'il existe d'autres modèles économiques. Un système de bouquets télé payants, d'abonnement à la carte, ou même le recours à la publicité.
L'alternative, elle sera faite par les entrepreneurs. Il y a des milliers de gens qui produisent tous les jours de l'information. Il y a des milliers d'entreprises sur Internet, sur les télés, etc., qui peuvent faire des abonnements, qui peuvent prouver aux gens leur qualité et leur intérêt. Et c'est cette dynamique-là qui doit fournir l'information. Et les gens doivent s'intéresser et acheter ce qui les intéresse.
Service public ou audiovisuel soumis à l'économie de marché, la redevance est-elle toujours légitime? Ce sera au peuple d'en décider le 4 mars prochain. Mais quel que soit le résultat du vote, le débat de société suscité ne s'arrêtera sans doute pas là.
Europa.
C'est un gouvernement prêt à aller jusqu'au bout qui se lance dans la réforme de la SNCF en France. Un dossier miné lorsque l'on connaît la détermination des syndicats de cheminots à défendre leur statut, arraché à un siècle de lutte sociale. Un statut que le gouvernement veut supprimer justement pour les futurs recrutements, car il serait l'une des causes du marasme financier et industriel dans lequel se débat l'opérateur ferroviaire. Alors, comment nos voisins s'en sortent-ils dans ce secteur? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec Daniel Vigneron. Bonjour Daniel.
Bonjour Catherine.
Le statut dont il bénéficie fait-il des cheminots français des privilégiés?
Le terme privilégié est très mal perçu par les intéressés, qui rappellent à juste titre que le métier de cheminot implique des contraintes fortes en termes d'horaires de travail, de congés décalés et de pénibilité. Ceci posé, le statut est très dérogatoire par rapport au droit commun des salariés. Il garantit en effet jusqu'à 30 jours de congés supplémentaires par an, prévoit de nombreuses compensations financières en fonction des contraintes imposées, instaure une progression automatique des carrières, et donc des salaires, accorde des avantages en nature comme la gratuité de transport en train pour les salariés et la quasi-gratuité pour leurs familles. Surtout, le statut garantit l'emploi à vie, sauf en cas de radiation pour faute grave. Sans compter une longue retraite payée à 75% du salaire qu'ils peuvent prendre à 52 ans pour les conducteurs de train et à 57 ans pour tous les autres, moyennant souvent, il est vrai, une certaine décote.
Est-ce que cela veut dire que les cheminots français seraient mieux traités que dans les pays voisins?
Ils sont bien mieux protégés, en tout cas, à l'exception des cheminots belges qui bénéficient d'un statut comparable, mais d'une retraite plus tardive. Ailleurs, même si tout au long du XXe siècle, les travailleurs du rail, bien organisés, ont obtenu des avantages, le régime régime des cheminots s'est peu à peu rapproché du droit commun. En Allemagne, dès la réforme ferroviaire de 1994, le statut des cheminots a été supprimé pour les nouvelles recrues. Aujourd'hui, 85% des employés de la Deutsche Bahn, entreprise pourtant publique, travaillent sous contrat de droit privé. Ce qui veut dire 39 heures hebdomadaires, la retraite à 63 ans et bientôt plus, 20 jours de repos annuel en moins qu'en France et une polyvalence imposée aux conducteurs de train. Même schéma en Italie, le groupe public Ferrovie dello Stato est devenu une société de droit privé en 1992. Le statut des cheminots a disparu dans la foulée. Partout en Europe, sauf en Belgique et en France, il n'y a plus de garantie systématique de l'emploi.
Et les cheminots sont-ils vraiment avantagés sur le plan salarial?
Sans parler de certains conducteurs de TGV qui peuvent, avec les primes, émarger jusqu'à 6000 euros mensuels, le salaire moyen des salariés de la SNCF est de 3100 euros bruts par mois. Les cheminots français sont sensiblement mieux rémunérés que leurs collègues italiens ou espagnols, mais plutôt moins bien que leurs homologues allemands et surtout britanniques, ces derniers percevant en moyenne 3500 euros mensuels.
Alors Daniel, quelle est la situation de la SNCF en comparaison des autres opérateurs ferroviaires européens ?
Elle est fort préoccupante. Le ferroviaire français est lourdement déficitaire, non pas tant du fait des trains qui circulent, mais du réseau ferré, que SNCF Réseau n'a pas les moyens d'entretenir et de moderniser autrement qu'en s'endettant. Résultat, à la mi-2017, la dette nette du groupe SNCF atteignait au total 53 milliards d'euros, impliquant une charge d'intérêt annuelle de plus de 1,5 milliard. Cela au moment où il faut d'urgence remettre à niveau le réseau régional ou périurbain. Cette dette est la plus forte d'Europe, à l'exception de la dette ferroviaire britannique qui atteint presque 60 milliards d'euros. Mais les Anglais ont lourdement investi ces dernières années et leur réseau est désormais l'un des plus sécurisés après les déboires tragiques du début de ce siècle, on s'en souvient. Celui de la Deutsche Bahn, qui investit elle aussi lourdement, atteint 19 milliards, soit près de 3 fois moins qu'en France. Il est vrai que l'État allemand a repris à son compte la dette du ferroviaire il y a 20 ans. C'est ce que demande aussi à l'État la SNCF. Pour l'instant, le Premier ministre ne s'est pas engagé car il exige l'assainissement préalable du groupe.
Daniel Vigneron de MyEurope.info. À la semaine prochaine, Daniel.
À bientôt, Catherine.
Le plus beau site naturel du Monténégro risque-t-il d'être défiguré ? Les autorités envisagent de construire un pont en plein cœur de la bouche de Kotor pour remplacer le ferry historique qui traverse le détroit de Vérig. L'UNESCO menace en représailles de déclasser le site, ce qui aurait un impact plutôt négatif sur le tourisme. Simon Rico.
Chaque année, les ferries rouges et blancs qui relient Kamerani à Lepetani transportent plusieurs centaines de milliers de visiteurs venus découvrir le superbe site naturel de la bouche de Kotor. Cette ria profonde de 28 km, aux multiples bras surplombés de hautes falaises calcaires, est inscrite au patrimoine mondial de l'humanité depuis 1979. Mais ces dernières années, l'UNESCO a plusieurs fois menacé de la déclasser à cause du bétonnage massif lié au boom touristique. En 2017, les autorités monténégrines ont fini par adopter un plan d'urgence pour tenter d'amadouer l'Organisation des Nations Unies. Un moratoire sur les nouvelles constructions hôtelières a notamment été décidé. Mais le nouveau projet de pont pour remplacer le bac du détroit de Vérig remet en péril la bouche de Kotor. « Nous risquons de nous tirer une balle dans le pied », prévient Branko Nedovic, le maire adjoint de Kotor. La municipalité a de quoi s'inquiéter. Le tourisme constitue de très loin sa première source de revenus et un possible déclassement du patrimoine mondial de l'humanité aurait de lourdes conséquences financières. Il existe pourtant une alternative pour désengorger la zone, poursuit Branko Nedovic, le prolongement d'une route hors de la partie protégée du site, ce qui permettrait en outre de rénover les infrastructures vieillissantes, canalisations et réseau électrique. Une solution bien plus efficace et bien plus durable pour le littoral, souligne le maire adjoint. Reste à savoir si le gouvernement du Monténégro écoutera la voix de l'UNESCO et de la raison au lieu de sacrifier une fois de plus sa côte.
À la réalisation d'Accent, il y avait aujourd'hui Ludivine Amado et Steven Elsley. Vous pouvez nous retrouver sur RFI.fr ou sur notre page Facebook. Restez à l'écoute de la Radio Mondiale dans quelques instants journal.